La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et c'est l'heure de la solution du jour avec Elisabeth Assayag.
Oui, vous cherchez à être livré le jour même de vos achats. Elisabeth, il existe une solution et elle s'appelle Easy2Go.
Et oui, cette entreprise qui a 3 ans d'existence livre tout ce qui est volumineux pour les particuliers. Par exemple, vous avez acheté un lit, vous souhaitez vous le faire livrer ou encore des machines de bricolage ou une tondeuse pour votre jardin. Vous faites vos achats et vous prenez rendez-vous pour être livré le jour même. Non seulement vous êtes livré à la maison, mais dans la pièce de votre choix. Les prix sont quasiment les mêmes qu'une livraison classique. Ça commence à 39 euros. Bonjour Olivier Leroux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur d'Easy2Go. Comment est né Easy2Go?
Easy2Go part d'une idée assez simple.
C'est un problème?
Moi, j'ai beaucoup déménagé et emménagé dans ma vie. Qui dit emménagement dit galère à chaque fois,
le lit, la
machine à laver, etc. Et l'idée, je suis par ailleurs très occupé, donc l'idée était de trouver une solution rapide, sur mesure et dans la pièce du choix pour éviter tout ce qui est manutention, etc. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une place sur le marché pour créer une entreprise qui répond à cette solution.
Alors, je reprends l'exemple de tout à l'heure. Hein. Vous achetez un canapé demain, samedi, tiens, à 14h, on va faire les courses, on achète un canapé. Comment faire pour l'avoir dans mon salon à 18h, avec vous, avec Easy2Go.
Alors, vous allez demain faire vos courses, vous commandez, vous achetez votre canapé, vous laissez votre canapé dans le magasin où vous l'avez acheté. Le magasin va nous envoyer de manière informatique la commande dans la foulée. Un de nos livreurs va récupérer l'ordre de livraison dans la foulée également. Avec l'heure de votre rendez-vous, va se présenter dans le magasin pour venir chercher votre canapé et va vous le livrer à suivre et va monter ce canapé dans votre salon.
Donc, ce qui signifie, c'est que vous nouez des partenariats avec les grandes enseignes, avec les magasins?
Exactement. Aujourd'hui, on travaille avec toutes les grandes enseignes du retail, essentiellement. Donc, ce qu'on appelle retail, c'est tout ce qui est meubles, jardinage, bricolage, électroménager. Alors, je ne sais pas si on peut citer des noms ici, mais en tout cas...
Si, vous pouvez.
Alors, on travaille avec des enseignes comme Ikea, comme Jardiland, comme Brico Dépôt, comme voilà, toutes ces enseignes avec qui on travaille.
Mais si j'ai la possibilité de faire appel à vous ou pas du tout? Si je vous connais et que le magasin en question ne vous connaît pas, je peux leur dire appelez Easy2Go?
Alors vous pouvez également faire ça, vous pouvez également vous, on a une application, donc vous pouvez également vous-même, si vous nous connaissez, comme ce sera le cas j'espère après cette émission, vous pourrez également nous solliciter en direct et on viendra chercher votre marchandise dans le magasin.
D'accord. Quels moyens de transport vous utilisez? Surtout, c'est des gros camions, j'imagine?
Alors, on utilise des véhicules qui ne sont pas très gros, parce qu'il faut pouvoir aller dans les centres-villes facilement. Donc, on va dire que c'est des camions de taille moyenne, des camionnettes, entre guillemets.
Et je crois bientôt des vélos cargo.
Exactement. On a un projet. Alors, on ne peut pas monter un projet de livraison comme ça sans avoir une vision un peu environnementale. On a un projet de véhicule électrique qui est en cours, puisqu'aujourd'hui, on a à peu près... un quart de nos livraisons qui se fait en transport propre, on va dire. On espère en avoir 50% l'année prochaine. Lancement à Paris et à Lyon de intramuros de livraison électrique. Et également, projet de vélo cargo a commencé également au mois de février. Donc beaucoup de projets liés à l'environnement, on va dire.
Sylvain.
C'est quoi votre délai moyen? Vous êtes déjà débordé par les demandes? Vous avez une capacité à traiter beaucoup?
Alors, notre capacité, ça peut paraître un peu étonnant, mais on a une capacité à absorber un nombre de commandes très importante. Et en fait, comment on va faire pour absorber ça? On a des gens qui travaillent avec nous, des gens qui s'occupent des prévisions et qui vont tenir compte de la météo, par exemple, ou de plein d'éléments extérieurs et qui vont dire, je pense que samedi après-midi, on va avoir besoin de tant de véhicules à tel endroit. Et c'est comme ça qu'on va prévoir à l'avance. Donc, en fait, si vous voulez, on ne va pas prévoir aujourd'hui. La journée d'aujourd'hui, elle a déjà été prévue... au début de la semaine, on sait déjà plus ou moins ce qui va se passer aujourd'hui. C'est la base de notre métier.
Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui?
Alors, je peux vous dire déjà qu'aujourd'hui et demain, on est sur des journées où il va faire plutôt beau. Donc, il y aura une fréquentation plutôt un peu plus faible que d'habitude. Plus il fait mauvais, plus il y a de monde en magasin. En revanche, c'est le dernier jour de l'été demain. Et on n'est pas à l'abri qu'un certain nombre de gens profitent pour aller acheter encore un barbecue ou un salon de jardin pour inviter leurs amis à déjeuner. À midi.
Les services de livraison à l'intérieur même des magasins ne râlent pas trop parce que vous leur prenez un peu leur travail finalement?
Alors, je dirais qu'on on a une offre qui est complémentaire. Mmh. Oui, elle peut être amenée un peu à cannibaliser, mais pas tant que ça. On a une offre qui est complémentaire, qui s'adresse à des gens qui veulent de la rapidité, qui sont prêts à payer un petit peu plus cher pour avoir leur livraison. Si vous vous êtes pas pressé et que vous voulez payer beaucoup moins cher, vous allez prendre une livraison en 3 à 10 jours.
Voilà. 3 ans après la création de votre entreprise, vous avez plus de 100 salariés?
Exactement. On était 2 en janvier 2017. Donc c'est aussi, c'est bien de parler de notre projet de livraison, mais c'est aussi une belle aventure humaine.
C'est une très belle histoire d'entreprise.
Voilà, d'entreprise, parce que c'est des emplois qu'on a créés. À 90% en CDI aujourd'hui, je précise aussi, hein, on parle souvent de précarisation de l'emploi. Donc c'est une belle aventure humaine avec des gens qui viennent d'horizons complètement différents, des professionnels du transport, des anciens start-upers, des stagiaires qui sont devenus CDI. Enfin,
pas forcément des contrats d'auto-entrepreneurs pour le coup chez vous.
Aucun contrat d'auto-entrepreneur chez nous. Et j'insiste, nos chauffeurs sont des professionnels et nous ne travaillons qu'avec des sociétés locales. Parce que le projet aussi d'EasyToGo, c'était de redynamiser localement des entreprises de transport, puisqu'aujourd'hui, 80% de notre activité se fait en province.
Ça s'appelle EasyToGo. Merci Olivier Leroux d'être venu nous en parler. C'était la solution aujourd'hui sur Europe 1.
Merci beaucoup.
Il est midi 57.
Europe 1.
Restez avec nous, on va parler patrimoine dans un instant avec vous, 3921 et Twitter, on vous attend. Est-ce que le digital peut aider à valoriser ou à restaurer notre patrimoine français ? À vous de nous le dire, c'est la France qui bouge.
Europe 1, midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans la France Bouge Académie. Nous sommes, vous le savez, à la veille des Journées européennes du patrimoine, 36e édition. Plus de 17 000 lieux à visiter ou à découvrir. Mais aujourd'hui, certains bâtiments sont menacés, d'autres en cours de rénovation. Alors, nous nous sommes demandé si la technologie pouvait être utile, si on pouvait mettre finalement le moderne, la modernité au service du passé, de l'histoire. Bonjour Charlotte Trigance.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice du studio Sherlock, qui a mis au point Sherlock Patrimoine. Vous avez, je crois, toujours voulu travailler dans ce secteur. Pour quelle raison ?
Alors effectivement, depuis que je suis toute petite, je veux travailler dans le patrimoine. Quand j'étais petite, je voulais construire des pyramides ou des cathédrales. Bon, j'ai rapidement compris que ça risquait d'être un peu compliqué. On n'en construit pas beaucoup de nos jours. Du coup, je me suis orientée vers la restauration des monuments historiques pour essayer de coller un peu à cette idée-là. Et aujourd'hui, je suis ingénieure, je suis diplômée de l'école des mines et je suis spécialisée dans le diagnostic des matériaux et des structures anciennes.
Ouais, vous avez étudié la dégradation des matériaux anciens. Ce qui vous passionne, si j'ai bien tout compris, en fait, c'est le mélange de disciplines.
Oui, alors tout à fait. Après mon diplôme, je me suis spécialisée dans la dégradation des matériaux anciens. Donc l'idée, c'est de déterminer quelles sont les pathologies qui affectent les matériaux qui composent les monuments
vous
et leurs structures.
Vous dites pathologies, comme quand on est malade. Un bâtiment peut être malade.
Exactement. Et c'est pour ça qu'on les restaure, justement. Et du coup, c'est une manière, en fait, de déterminer comment on va faire pour les restaurer et d'aider les gestionnaires et les architectes dans leur démarche.
Pourquoi Sherlock ? Parce que travailler sur le patrimoine, c'est un peu comme mener une enquête, essayer de trouver des indices pour réussir à comprendre ce qui s'est passé ?
Tout à fait. Il y a 4 ans maintenant, j'ai créé ma propre structure et je l'ai appelée Sherlock Patrimoine parce qu'en fait, le métier d'ingénierie que je pratique consiste à me rendre sur les monuments pour observer, récolter des indices et essayer de déterminer quelles sont les pathologies qui affectent les monuments et surtout comment on va faire techniquement pour les restaurer. Donc c'était un peu parce qu'on fait des enquêtes qu'on a choisi ce nom-là.
Sherlock Patrimoine, c'est en 2015. Puis oui. Juste après, un an après, vous avancez et vous commencez à créer une sous-division, j'ai envie de dire, ou une division parallèle.
Oui.
Plus consacrée à la vidéo.
Oui, alors moi je suis assez passionnée par ce que je fais et du coup j'ai eu, de par mon métier, ça fait une douzaine d'années que je travaille dans le domaine. J'ai eu l'occasion de voir des monuments assez exceptionnels, de travailler sur des chantiers de restauration hyper intéressants. Et j'ai toujours trouvé ça dommage que ce soit des choses qui ne soient pas accessibles au plus grand nombre. Et en fait, en 2016, j'ai rencontré Julie Garcia, qui est mon associée sur Studio Sherlock. Et ça a été un peu le coup de foudre, entre guillemets, parce qu'elle, elle est réalisatrice. Et en fait, elle s'est spécialisée dans la réalisation de vidéos qui mettent en valeur les processus de création des artistes et des artisans. Donc l'idée, c'est pas forcément de s'occuper uniquement de valoriser l'objet fini, mais tout le travail qui a été nécessaire pour l'obtenir, pour le créer. Et moi, je trouvais ça assez intéressant parce que quand on voit un objet ou une œuvre d'art, on ne se rend pas forcément compte du travail qui a été nécessaire pour le faire. Et je pense que quand on s'en rend compte, l'objet prend d'autant plus de valeur. Et en fait, on a décidé tout simplement de transposer sa démarche à la restauration des monuments historiques.
Du coup, vous montrez l'envers du décor, vous montrez l'intérieur des bâtiments quand ils sont en cours de rénovation, tout ça en 3D.
Alors, pas tout à fait. Donc, on s'intéresse effectivement à ce qui se passe dans les coulisses de la restauration. Donc, l'idée, c'est de permettre au grand public d'accéder à ce qui se passe derrière l'échafaudage.
Quand on ferme un bâtiment au public, vous êtes à l'intérieur et vous pouvez filmer.
Exactement. Donc, on utilise divers types de médias, principalement la vidéo. Parce que on fait du transmédia également, donc on fait aussi des podcasts, des articles à lire et des petites capsules pour les réseaux sociaux. Et l'idée, en fait, c'est de rendre accessible au plus grand nombre ce qui se passe derrière l'échafaudage. Et la vidéo, c'est un média qui est hyper accessible, qu'on peut facilement diffuser en ligne sur les réseaux sociaux. Et ça nous paraissait important que ce soit un média facilement accessible qui soit utilisé.
Sylvain ?
Qui sont vos clients ? L'État, la région ou des particuliers qui ont un
alors,
bien.
Il y a un peu de tout ça.
Les plus gros,
c'est les collectivités territoriales, les villes, les départements, les régions, effectivement, l'État, les ministères, ce genre de choses. Également des particuliers. On travaille aussi pour des particuliers qui restaurent un patrimoine. Alors, les problématiques sont un petit peu différentes en fonction des clients. Une collectivité ne va pas avoir forcément les mêmes raisons de valoriser une restauration qu'un propriétaire privé. Donc on est sur des philosophies un peu différentes dans la valorisation dans ces cas-là.
Elisabeth, vous avez trouvé une start-up qui modélise les sites historiques détruits ou menacés qu'on connaît, hein, qu'on avait reçus.
Que nous avions reçus sur Europe 1, notamment lors de notre émission spéciale
sur Notre-Dame.
Sur Notre-Dame, évidemment. Ça s'appelle Iconem.
Oui.
Que vous connaissez,
oui.
Je vous vois sourire. Iconem permet de préserver la connaissance du patrimoine menacé ou détruit, hein, notamment aussi avec Palmyre, en utilisant des technologies dont la prise de vue aérienne par les drones, la modélisation en 3D, avec tout ça grâce à des algorithmes qui sont assez nouveaux, mis en place par Iconem. Et cette entreprise donc, avait été sollicitée après l'incendie de Notre-Dame. Ils utilisent de la documentation ancienne pour reconstruire numériquement.
Charlotte, vous avez pour ces journées travaillé sur la restauration du manoir de Beaubril à l'Ermitage près de Rennes. On peut citer peut-être le château de Carouge dans l'Orne aussi.
Tout à fait.
Et à Paris, l'église Saint-Philippe-du-Roule.
Oui. Alors là, pour les Journées européennes du patrimoine, on organise deux événements principaux. Effectivement, au manoir du Beaubril à Rennes. Donc là, c'est un propriétaire privé qui a décidé de documenter la restauration de son manoir. Et c'est très intéressant parce que c'est le plus ancien manoir de Bretagne aujourd'hui daté. Et pour la restauration, on utilise des techniques traditionnelles et écologiques. Donc c'est de la restauration en terre crupaille. Donc c'est extrêmement intéressant à voir et à comprendre. Donc le manoir est ouvert tout le week-end à la visite avec une exposition photo, des projections vidéo, des démonstrations des entreprises et des podcasts à écouter. L'idée des podcasts, c'est assez intéressant. En fait, on essaye de donner la parole aux personnes qui travaillent sur les chantiers, les compagnons, les ouvriers, parce que c'est souvent des métiers qui sont dévalorisés ou méconnus, c'est ça. Donc l'idée pour nous, c'est de leur donner la parole et d'essayer, pourquoi pas, de créer des vocations chez les jeunes. On leur pose des questions sur leur parcours personnel, comment ils en sont arrivés là, pourquoi ils travaillent dans le patrimoine, quel sens ils donnent à leur travail et pourquoi ils restent dans ce domaine-là. Donc c'est des dialogues qui sont assez intéressants.
Et on va continuer ensemble, vous restez avec nous, à nous intéresser au patrimoine français aujourd'hui.
Il est 13h19.
Europe 1.
Valoriser le patrimoine, c'est aussi montrer les trésors qu'on garde enfouis. C'est le travail de Binlab. A tout de suite.
La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec un dossier du jour consacré aux innovations pour restaurer et valoriser notre patrimoine. Vous pouvez réagir, nous envoyer vos messages à tout hashtag Europe 1. Vous pouvez également nous appeler pour en parler à l'antenne au 39 21 Raphaël.
Quand on visite des musées célèbres, il y a ce qui est exposé, bien sûr, et puis tout ce que le musée ne donne pas forcément à voir, ce qui n'est pas en état ou ce qu'il n'a pas la place d'exposer, et pourtant se cache ainsi des milliers de trésors. Et que dis-je, des milliers ? Bonjour Vincent Autain.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le co-créateur, c'est comme ça que vous dites, un co-créateur de Binlab. Vous êtes basé à Lyon, et alors vous avez eu l'idée de créer une start-up culturelle qui permet justement au musée de créer leur propre appli pour qu'elle puisse donner à voir toutes ces choses-là.
C'est exactement ça. En fait, on est parti du constat assez simple que plus de 90% des œuvres d'art restent invisibles du grand public.
Plus de 90%.
Plus de 90%, ouais. En France, en Europe, le constat est un peu partout le même. En parallèle, la plupart de ces documents sont déjà numérisés, photographiés, photogrammétriques, etc. Et nous, on s'est dit que ces bases de données étaient l'occasion de revaloriser ces documents auprès des visiteurs des musées. Et donc, on a voulu donner un outil pour donner l'opportunité au musée de recréer par eux-mêmes des applications à partir de ces documents oubliés.
Parce que ces documents peuvent être difficiles à montrer, parce qu'il y a un problème de conservation, par exemple.
C'est ça. Il y a par exemple des dessins d'artistes qui ne peuvent pas être exposés à la lumière du jour trop longtemps, des documents qui sont trop fragiles, des documents qui sont trop gros, enfin, beaucoup d'arguments qui font que certains œuvres d'art ne peuvent pas être exposées. Et la numérisation.
Vous avez un exemple, quelque chose qui vous a frappé?
Oui, par exemple, très récemment, on a travaillé avec la ville du Havre, oui. Qui avait une collection de plus de 150 photographies de la ville d'il y a 150 ans. Et pour une exposition qu'ils avaient faite, ils voulaient remontrer ce patrimoine-là. Les montrer à lumière du jour, ce n'était pas possible. Du coup, le format numérique l'a permis. Et notre outil a permis de mettre leur base de données dans notre outil et recréer l'application avec ça.
Alors, c'est vrai pour les documents. Est-ce que c'est possible aussi sur d'autres pièces?
Bien sûr, on fait de sculptures 3D en 3 dimensions, etc. Enfin, le format numérique...
Ça s'applique à tout.
Oui, voilà, on fait un peu ce qu'on veut. Ouais.
Sylvain?
Mais du coup, vous allez avoir une base de données colossale. Alors, si les choses décollent de toutes ces données, vous avez envisagé d'en faire quelque chose? Vous ne pouvez peut-être pas en faire quelque chose d'ailleurs?
C'est un très gros projet qu'on mène en ce moment. Aujourd'hui, la plateforme, c'est le musée qui l'alimente à partir de ces données. Là, demain, on est en train de connecter la plateforme à plusieurs bases de données. Ça s'appelle les API, avec la base de données de la Réunion des musées nationaux, notamment de la Bibliothèque nationale de France et d'autres musées open source, pour offrir de nouvelles données, de nouvelles sources de données à d'autres musées qui voudraient présenter des choses en provenance d'ailleurs.
Donc vous, votre mission, c'est finalement d'aller frapper à la porte des musées, de leur dire, voilà, nous, on a cet outil. Si vous voulez, on peut mettre une application en place pour vous, pour que vous puissiez montrer ce que vous avez de caché.
C'est exactement ça, oui.
Combien de musées vous suivez aujourd'hui?
Aujourd'hui, on a un peu plus de 240 musées inscrits sur la plateforme. On tourne à peu près une petite centaine de comptes actifs.
Et alors, vous avez l'idée d'appli collaborative, c'est ça, aujourd'hui, avec des connexions qui peuvent se faire entre certains musées, des échanges aussi?
C'est ça. Dernièrement, par exemple, en fait, l'idée nous est venue quand on a livré le département de la Saône-et-Loire, on a offert la plateforme, ils ont accès à la plateforme pour l'ensemble de leurs lieux de culture. Et du coup, est venue l'idée de la collaboration entre ces lieux de culture, le partage de données, le partage d'applications, le partage de ressources. Et on travaille à le faire à une échelle beaucoup plus grande entre tous les utilisateurs de notre plateforme pour qu'un musée qui va mettre, on parlait du Havre par exemple, mettre la collection de photos sur la plateforme, que cette base de données puisse être aussi utilisée par d'autres utilisateurs.
Il y a la partie musée, il y a la partie particulier aussi ou...
Non, pas particulier.
Pas encore, vous y pensez?
Non, on n'y pense pas vraiment, pas encore, mais on commence à travailler avec du secteur privé, avec des grands comptes, la RATP notamment, GRT Gaz aussi, où là c'est un tout autre usage, voilà, on commence à travailler avec d'autres secteurs d'activité.
Elisabeth, je crois que vous avez trouvé une appli au service des richesses architecturales et du tourisme.
Oui, ça s'appelle Octus. Octus est une start-up qui existe depuis 2017, elle a été fondée par 4 personnes, et l'idée c'est de faire revivre sur le téléphone, sur le smartphone, le patrimoine urbain tel qu'il existait plusieurs siècles auparavant. D'ailleurs, la start-up a lancé il y a quelques mois un parcours à Amiens en réalisant 5 arrêts pour découvrir d'est en ouest l'Amiens antique tel qu'il était il y a plusieurs siècles. Possibilité de naviguer dans des photos interactives à 360 degrés, explorer les fouilles réalisées qui ont eu lieu dans les années 90 et aussi de découvrir des images cliquables en 3D et qui peuvent donner des informations historique, donc de la visite et de l'histoire surtout.
Sylvain?
Et vous en êtes où aujourd'hui dans le projet? Vous avez dit 240 musées, mais combien de collaborateurs et c'est quoi le plan de développement?
On est une petite équipe, on est une équipe de 6 personnes, donc en développement, design, parce qu'on fait hyper attention à ce que la plateforme soit hyper facile d'accès, et puis des ressources en commercial. On est en train d'ouvrir un bureau à Berlin pour étendre l'activité en Europe. L'idée en fait c'est d'étendre le nombre d'utilisateurs sur la plateforme, donc le nombre de musées inscrits qui l'utilisent, et on commence aussi à s'adresser directement aux collectivités. Je vais citer l'exemple du département de la Saône-et-Loire, le faire avec d'autres collectivités pour qu'ils redistribuent l'accès à la plateforme à tous leurs lieux de culture.
Donc l'international est une option?
Là, on est en plein dedans, ouais.
D'accord.
On reste ensemble et on continue à parler patrimoine aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h27.
Europe 1.
Et si les jeunes étaient aussi l'avenir de la sauvegarde de notre patrimoine, un appel est lancé aujourd'hui même. On le relaie sur Europe 1. A tout de suite.
Les journées du patrimoine, c'est ce week-end et dans La France Bouge, on s'intéresse aux innovations pour restaurer et valoriser notre patrimoine. Ce sujet vous touche, vous intéresse, vous avez des questions, appelez-nous au 3921, c'est 50 centimes la minute, ou écrivez-nous via Twitter, @Europe1, Raphaël.
Et si demain, Céline, les jeunes générations étaient l'avenir de notre patrimoine? C'est le pari que fait en tout cas le pôle métropolitain lyonnais qui vient de lancer un appel à idées sur le thème « Quel patrimoine dans 50 ans ?». Bonjour Olivier Sanejouan.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chargé de mission patrimoine et tourisme auprès de ce pôle. Cet appel, il est destiné, hein, on va le dire, aux étudiants en architecture et en urbanisme. Comment vous est venue l'idée? Ça fait déjà quelques années que c'est mené.
Oui, alors je vais déjà reconnaître que ce n'est pas une idée à moi, et que c'est une idée...
Mais c'est une belle idée.
Mais c'est une très belle idée et du coup elle continue aujourd'hui. L'idée, c'était d'utiliser les journées du patrimoine à se poser des questions autre que uniquement visiter ce qui existe aujourd'hui. Et il y avait plein de démarches, et notamment une rencontre qui s'est faite avec l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon, avec l'Institut d'urbanisme. Et l'idée, c'était de faire travailler les élèves, ceux qui vont faire le patrimoine de demain finalement, sur s'interroger un peu sur les enjeux du patrimoine d'aujourd'hui et de la transmission qu'on devra, qu'ils vont contribuer à laisser aux générations futures. Donc l'idée de l'appel à idées, c'est bien un appel à idées et pas un appel à projets, puisque le principe même des choses qui vont être développées à partir de ce week-end, c'est plus proche de l'utopie que de la réalité, puisqu'on part du principe que pour une fois dans leur carrière, ils n'auront pas de problèmes ni environnementaux, ni budgétaires, ni de plan d'occupation du sol.
Laissez libre cours à votre imagination.
Voilà, l'idée pour faire germer dans ces idées peut-être ce qui fera des projets de demain.
Alors vous dites, ils n'auront pas de problème, sauf que ces idées que vous ramassez, vous en faites quelque chose, vous les gardez. Vous les mettez déjà dans des livres qu'on peut consulter. 2018-2068, ça c'est l'édition de l'année dernière. Ils ont travaillé sur quel avenir pour les marchés du pôle métropolitain, avec des choses assez surprenantes à l'intérieur. Mais ça peut servir demain, cette base-là.
Et bien, quand on regarde ces idées utopiques, on se rend compte que l'utopie, elle n'est pas loin de la réalité si jamais on voulait essayer de casser un peu les codes et voir notre environnement et notre urbanisme un peu différemment. Et je crois que c'est important que ce soit les élèves, ceux qui seront archis demain, qui se posent des questions aujourd'hui, parce qu'après, c'est un peu tard.
Donc ça nous permet aussi d'anticiper la préservation des sites.
Oui, c'est tout à fait... Ça rentre dans ces démarches. C'est pour ça qu'on s'accroche sur les journées du patrimoine, si j'ose dire, pour démarrer. Tout simplement parce qu'on part aussi du principe qu'un bon projet n'a de valeur que s'il est ancré dans son histoire. Et c'est pour ça que demain matin, quand les équipes vont aller sur 6 sites différents, ils ont quand même un petit cahier des charges, puisque demain on travaille sur la notion d'habiter. Habiter la ville autrement demain, habiter les villages autrement demain. Mais dans leurs prérequis, il y a comprendre l'environnement, mais surtout aussi s'intéresser à deux choses essentielles, qui est bien sûr l'histoire parfois millénaire des sites dont on parle. Parfois l'histoire récente, ça va être le cas de Firminy, où on est sur du patrimoine du XXe siècle et comment va vieillir et se transmettre les utopies du XXe quand on est au XXIe. Et puis il y a cette dimension aussi où le patrimoine n'est pas restreint au bâti, mais fait partie aussi du patrimoine, tout ce qui est matériel, environnemental.
Oui, vous en savez quelque chose, vous êtes directeur de Vienne-Condrieux Tourisme, donc forcément ça vous parle, ce patrimoine non bâti.
Ah, le non bâti, gastronomique et tout ce qui est... c'est un double, c'est bâti et non bâti, puisqu'on a à la fois toute cette culture en terrasse et bien sûr ce patrimoine immatériel lié au savoir-faire œnologique.
Donc 14 projets, 6 lieux à imaginer dans 50 ans, lesquels? Vous avez parlé de Firminy.
Alors Firminy Vert, c'est un lieu emblématique qui est revisité demain, dans la mesure où Firminy Vert, c'était un lieu emblématique du Corbusier. C'est le cas également de la Cité des Étoiles à Givors, qui a été signé Renaudy et qui est un lieu assez intéressant à se poser la question de qu'est-ce qu'on va en faire demain. Il y a l'île d'Abo, qui était un village ville nouvelle, tout l'enjeu des villes nouvelles il y a longtemps, qu'on appelle ville nouvelle aujourd'hui, je ne sais pas s'il faut garder le mot nouvelle. Et puis, il y a aussi trois villages périphériques des agglos. C'est le vrai d'Arnasque, qui touche Villefranche-sur-Saône, en bord de Saône, un village très village, mais en même temps dans la périphérie urbaine. C'est le cas également de Saint-Pierre-de-Chandieu, qui touche Lyon, hein, pour mon voisin. Et puis, bien sûr, du côté de Vienne, on s'interroge sur Condrieu, le village emblématique de Condrieu, qui est à deux pas de Vienne, et de voir comment on peut l'imaginer dans 50 ans, avec tous les enjeux de vivre ensemble, etc., etc.
Sylvain, le coach.
Ouais, vous avez dit pas de limite à l'imagination, mais est-ce que vous observez dans tous ces projets qui sont issus de jeunes des points communs en termes de sources d'inspiration?
Alors, ce qui est peut-être rassurant pour nous, qui allons transmettre deux, trois petits trucs quand même avant de partir, c'est de dire le plus tard possible. J'ai un peu peur que 50 ans, ça soit un peu tard. Mais bon, tout ça pour dire, c'est qu'il y a une... Même si on l'interroge officiellement cette année, on n'en parlait pas forcément les autres années, la dimension environnementale, la problématique de réchauffement de la planète, tout ce qui va être, on va dire, éco quelque chose, et tout ce qui va être aussi participatif. J'ai envie de dire, quand je vois que je participe au jury, que je suis ces élèves dans différents projets, j'ai envie de me dire, si jamais ils pouvaient mettre en application et qu'on les suive tout ce qu'ils pensent encore aujourd'hui, je pense que là, je suis serein pour l'avenir de la planète. Malheureusement, ce n'est pas forcément tout à fait comme ça que ça va se passer plus tard.
Et on en parle en ce moment, hein, du climat, parce qu'il y a une grande séquence qui s'ouvre cette semaine. Vous parlez de jury, justement. Tiens, ça va se dérouler comment? Donc, ils vont découvrir demain. Et ensuite, quelles sont les grandes étapes?
Alors voilà, ça c'est important parce qu'on veut que ça reste sur un ancrage territorial et que ça serve, entre guillemets, à tout le monde. C'est-à-dire que demain, ils vont faire ce qu'on appelle un workshop in situ. Ils vont être sur le terrain, ils vont découvrir, ils ont découvert il y a une heure où ils allaient, ils ne se connaissaient pas avant. On mélange aussi des esthétiques, si j'ose dire, des architectes et des urbanistes qui seront condamnés un jour à travailler ensemble, même si parfois ils ne réfléchissent pas forcément dans les mêmes directions. Et demain, ils découvrent leur site. Et sur ces sites, ils vont à la fois s'en inspirer, les découvrir, les voir, les photographier, mais aussi rencontrer les habitants locaux au travers des journées du patrimoine pour voir aussi comment ce fameux ancrage. Après, ben, dans 10 jours, ils vont nous livrer leur projet. Et début novembre, mi-novembre, le 15 novembre exactement, il y aura un rendu public qui se fera dans le cadre de la Biennale d'art contemporain de Lyon. Et le soir, c'est un vendredi soir, chacune des équipes ira restituer de nouveau sur les territoires auprès des gens qu'ils auront rencontrés demain et de voir ce qui peut naître de tout ça.
Rester dans l'échange, c'est important. Et on le voit quand on regarde d'un peu plus près, Elisabeth, des initiatives locales, il y en a. Mm-hmm. Il y a par exemple les lycéens de Tonnerre qui ont lancé une application pour faire découvrir la ville et le patrimoine.
Oui, Tonnerre dans Lyon. Hein. Vous, c'est quel patrimoine dans 50 ans? Mais bien, ces lycéens dans Lyon, eux, se sont dit pour cette petite ville, cette ville de 4700 habitants, on va essayer de faire renaître ce qui existait il y a de nombreuses et de nombreuses années. Donc, il y a eu deux promotions d'élèves de seconde qui ont planché sur le patrimoine de la ville et ils ont pu créer donc cette application c'est une façon de faire renaître donc toutes ces richesses locales qui étaient oubliées.
On reste ensemble et on parle patrimoine aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h38.
Europe 1.
Et vous restez avec nous, on va plonger évidemment dans ce patrimoine avec vous, avec vos témoignages. On vous attend, 3921, Twitter, c'est la France qui bouge. À tout de suite.
Europe 1.
La France bouge, c'est jusqu'à 14h. Dans le dossier du jour, Raphaël, on parle des innovations pour restaurer et valoriser notre patrimoine et vous en parlez avec vos invités. Charlotte Trigance, cofondatrice de Studio Charlotte qui a créé Charlotte Patrimoine. Vincent Autin, cofondateur de BinLab, start-up culturelle qui permet aux musées et aux sites culturels de créer leur propre appli. Et puis Olivier Sannejouan, qui est chargé de mission patrimoine et tourisme auprès du pôle métropolitain lyonnais, qui organise un appel à idées pour des étudiants en architecture et en urbanisme pour plancher sur la question quel patrimoine dans 50 ans. Toujours à mes côtés, Elisabeth Assaye, bien sûr, et notre coach, Sylvain Lambert, associé chez PwC. Je voudrais qu'on accueille Bruno qui a composé le 39-21. Bruno, vous êtes en ligne avec nous. Bonjour.
Oui, je suis là. Merci beaucoup de m'accueillir.
Vous êtes à Brest, Bruno?
Je suis à Brest, oui, effectivement.
Et vous avez une question à poser à Charlotte, je crois.
À Charlotte, oui. Je salue Charlotte, ingénieure, et moi je suis un ancien ingénieur retraité. Je suis très sensible à tout le patrimoine architectural français, châteaux, cathédrales, etc. Et puis ce que je disais, c'est qu'ici à Brest, on se rend compte que la France est entourée de côtes, la mer, avec beaucoup de patrimoine maritime qui nécessiterait d'ailleurs de la restauration. Je pense aux phares, je pense aux fortifications maritimes style Vauban, il y en a qui sont en pleine dégradation dans le coulet de Brest, et je pense à des bateaux. Et je pense, si Charlotte m'autorise à poser la question, je pense que cette technique pourrait peut-être s'appliquer à ces domaines-là, aussi bien sur la modélisation 3D, la vidéo, pour illustrer, faire connaître au grand public, et puis les techniques pour faire que les matériaux agressés par le vent, les marées, etc., on puisse trouver les façons de consolider les édifices et de les restaurer.
Alors elle va vous répondre, Bruno, elle vous écoute, Charlotte.
Oui, tout à fait. Bonjour Bruno, merci pour votre question. Alors oui, tout à fait, le patrimoine c'est assez vaste, il y a effectivement les églises et châteaux, mais il y a tout un tas de patrimoine architectural dans divers domaines. Nous on s'intéresse aussi beaucoup à ce qui est patrimoine industriel, parce que c'est des domaines qui nous intéressent, notamment parce que il y a des personnes qui travaillent, il y a un lien aussi avec l'humain et des compétences. Donc le patrimoine maritime, c'est effectivement un patrimoine qui est très intéressant. Donc nous, on est basé à Paris et à Nantes. Donc à Nantes, on a cette problématique effectivement de patrimoine côtier, et comme dans toute la Bretagne. Et les phares, effectivement, c'est des objets patrimoniaux extrêmement intéressants qu'il faut restaurer, qu'il faut entretenir. Donc c'est compliqué. Et il y a à la fois un aspect technique, effectivement, comment on restaure, comment on conserve, quelles techniques on peut mettre en œuvre. C'est des problématiques qui sont très spécifiques, avec notamment les sels marins, le vent, etc. Donc c'est des sujets très spécifiques, mais qui sont déjà étudiés, hein, et qui continuent à être étudiés. Et effectivement, avec la partie valorisation, c'est des sujets qui sont hyper intéressant. Nous, on adorerait avoir ce type de projet parce que ça permet de valoriser divers aspects, à la fois la partie architecturale, mais aussi la fonction du bâtiment ou même
on
du bateau.
Une histoire
effectivement.
Aussi, effectivement.
Voilà, il y a plein de choses
temps.
À dire derrière sur les gens qui ont travaillé et ce genre de choses.
Merci Charlotte pour vos précisions. Merci à Bruno. Hein. Merci d'avoir composé le 39-21 pour être avec nous en direct dans La France Bouge. Je voudrais qu'on aille dans la rue voir ce que pensent les gens des Journées du Patrimoine.
Bonjour, je m'appelle Marc, j'ai 59 ans. Alors, la sauvegarde du patrimoine, c'est une bonne chose, mais il y a d'autres choses aujourd'hui en France qui sont quand même prioritaires, comme la misère en France, l'insalubrité, la précarité. Le patrimoine, ça n'est pas une priorité.
Ça n'est pas une priorité. Aïe, aïe, aïe. Réaction d'Olivier Sennejouan. C'est pas antinomique.
C'est absolument pas antinomique à notre sens. C'est une question qu'on se pose tous les jours dans notre job, où personnellement je travaille dans le tourisme et la culture, c'est les regroupes dans le futil. Non, mais pas du tout. D'abord, derrière le patrimoine, il y a de l'économie. Et ça, il ne faut peut-être pas l'oublier. Et on a un témoin ici. Et donc, tout le travail qui est autour du patrimoine, c'est aussi un travail qui génère énormément d'emplois. Et ça, c'est le premier degré.
Et qui maintient des savoir-faire aussi.
Et qui maintient des savoir-faire. Et le deuxième degré, sur lequel peut-être je serais plus sensible, c'est qu'au travers du patrimoine, le patrimoine, ce n'est pas le sanctuariser, c'est au contraire l'ouvrir. Je pense que d'être tous d'accord autour de la table sur la notion du patrimoine vivant. Le patrimoine, c'est un endroit où se passent des choses, et pour la transmission, ça veut dire qu'il va continuer de s'y passer des choses. Et l'enjeu majeur, et notamment sur les journées du patrimoine ou sur d'autres actions, c'est le vivre ensemble, c'est comprendre d'où je viens, c'est partager. Et on voit très bien que dans des grosses manifestations où le patrimoine est au centre, qu'il soit culturel ou qu'il soit ludique, cette notion de partage ou cette notion de...
On arrive à se rassembler, finalement.
Voilà.
Ce qu'on peut faire aussi sur d'autres causes.
Voilà. Et je pense que je comprends tout à fait que il peut y avoir des priorités financières, mais ne pas oublier le volet culturel aussi qui a des vertus importantes.
Sylvain.
Ah oui, puis c'est un élément essentiel de la marque France. La France, elle est connue dans le monde pour plein de choses, dont son patrimoine. Donc ça rebondit sur l'attractivité, mais c'est un élément clé de notre marque nationale. Donc c'est positif pour la population et l'économie.
Elisabeth, je voudrais qu'on rappelle que les Journées du Patrimoine, c'est ce week-end et que c'est un moment très attendu.
Très attendu, ça se passe partout en France, Paris, Lyon, Lille, Marseille, Bordeaux, Rennes, Nantes, Toulouse. Il va y avoir des visites guidées, des ateliers insolites, en accès libre, qui vous attendent dans près de 17 000 monuments pour ces journées du patrimoine. 17 000 lieux à visiter, près de 26 000 animations. Donc, il ne faut pas hésiter si on veut découvrir des endroits qu'on ne connaît pas. C'est le moment ou jamais.
C'est demain et dimanche. Demain et dimanche, donc tout le week-end, un petit peu partout ces journées. Merci à tous les trois d'être venus nous parler patrimoine aujourd'hui sur Europe 1.
Merci.
13h47. Europe 1. Et on va rester d'une certaine manière dans le patrimoine, mais le patrimoine gastronomique cette fois, car c'est Daloyo qui est aujourd'hui l'entreprise qui va bien. A tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est l'heure, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, figurez-vous que c'est Daloyau. Bonjour Laurent Pfeiffer.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président aujourd'hui de Daloyau, dont l'histoire commence il y a fort longtemps, 1682, avec les frères Daloyau.
Exactement, c'est Louis XIV qui va dîner chez son cousin, le prince de Condé, au château de Chantilly, et qui lui pique au passage son boulanger, qu'on appelait Panetier à l'époque. En fait, Charles Daloyau, 1682, qui devient le boulanger du roi et qui va lui inventer des pains.
Le pain de la reine.
Le pain de la reine, exactement. Et puis après, on va le retrouver, son Charles XV, qui lui va piquer également un autre, le jeune frère. Le jeune frère Mathurin. Et il y en a d'autres, d'ailleurs.
Il y a Antoine, le
hâteur, c'est celui qui fait rôtir pour la reine. La princesse Lisinska, c'est un peu la mère de la gastronomie française, parce qu'elle aimait très très bien manger. Et donc on lui crée la chantilly, la fameuse chantilly que vous connaissez. Donc en fait, c'est nous qui l'avons créée également pour la reine. Et puis au fur et à mesure du temps, alors il y a aussi le fruitier.
Oui.
Alors qu'on a aussi le fruitier qui remet en fait le fruit à l'honneur du dessert, puisqu'il était complètement un peu oublié. Et puis au fil des années, en fait, on retrouve les Daloyau jusqu'en 1802.
Et là, il y a Jean-Baptiste
Daloyau qui crée la première maison de gastronomie française.
L'ancêtre de Daloyau tel qu'on connaît aujourd'hui.
101 rue du Faubourg Saint-Honoré.
Avec les salons de thé, avec la glacerie.
1820, premier salon de thé. 1894, première glacerie. On a créé le syndicat de la pâtisserie. Et puis, un point très important, le fameux prêt-à-emporter, c'est-à-dire... aujourd'hui, le fait de pouvoir aller chercher une salade, un sandwich, c'est nous qui l'avons inventé. Et ça, tous les food tech que l'on connaît, les Deliveroo, les Foodora et autres, ils peuvent nous remercier. Parce que si Jean-Baptiste Daloyau ne les avait pas inventés, c'est français.
Bon, dites-moi, le tournant, est-ce qu'on peut dire que c'est en 1949 quand, en tout cas, un premier tournant, quand on change de main, on change de famille, c'est la famille Cyriac Gavillon qui rachète. Et alors, moi, je ne savais pas. C'est vous aussi qui avez lancé l'opéra.
Ah oui, alors ça, c'est un grand débat. Mais alors, je profite de votre émission pour dire que Daloyau est l'inventeur de l'opéra. 1955.
Donc, inventeur de la food tech, inventeur de l'opéra.
Oui, exactement.
Tout
1955.
Tout est français,
imaginez. Imaginez à l'époque où c'était l'époque des gros gâteaux bien riches, bien indigestes. En fait, lui, il arrive avec un gâteau parallélépipède, en fait, très fin, avec uniquement un mélange de moelleux de café avec du chocolat. Et c'est son épouse, Andrée, qui en voyant ça, fait un lien avec les ballerines de l'Opéra de Paris et lui invente le nom. Le nom opéra, c'est André Gavillon, donc l'épouse de Cyriac, qui est un pâtissier incroyable, qui a donné ce nom-là. Et puis après, on peut le décliner finalement, cet opéra. Et on l'a décliné plein de fois.
Alors les choses avancent, on reste dans cette famille pendant un certain temps. Les choses vont un peu plus mal, à un moment aussi pour la maison Daloyau. Elle est vendue à un fonds, puis un autre arrive pour relever les... relever la tête, finalement. Vous prenez-vous la direction. Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui est resté? On est toujours entre cette modernité et cette histoire, finalement.
Écoutez, on n'a pas modifié l'histoire. On a 22 000 recettes. On a un savoir-faire incroyable. Daloyau, c'est la première maison française qui a formé le plus de meilleurs ouvriers de France, puisqu'on a plus de 30 meilleurs ouvriers de France.
Vous faites encore tout à la main?
Tout est fait à la main. Tout. Les macarons que vous allez pouvoir déguster
qui sont là,
sont entièrement,
vous pouvez les voir sur europe1.fr.
entièrement montés à la main. Ça, c'est très très important. Il n'y a pas de... Tout est naturel et c'est vraiment important. Il n'y a pas d'arôme artificiel. Il n'y a pas d'éléments qui puissent être nocifs pour la santé. Très peu sucré. C'est-à-dire qu'en fait, la famille Gavillon a lancé vraiment
l'époque... Qui était une famille de pâtissiers. Hein.
Exactement. Mais l'époque du moins sucré possible, en fait. Et ce qui est vraiment, vraiment très important aujourd'hui, parce qu'on retrouve finalement, eux l'ont commencé dans les années 50, et finalement aujourd'hui, c'est un des traits de notre société, un des essentiels sur lequel il faut manger moins sucré.
Elisabeth ?
Oui, vous dites des macarons montés à la main. Pardon, ce n'est pas le cas dans les autres maisons, chez La Durée, Le Nôtre ?
Non, alors la particularité du macaron Daloyau, c'est que c'est un macaron, ce qu'on appelle le macaron avec la meringue italienne, c'est-à-dire qu'elle est très moelleuse, elle est onctueuse. Et en fait, quand vous allez le mettre dans votre bouche, souvent on est obligé de le mettre entièrement parce qu'il doit, en fait, il doit fondre dans la bouche. C'est comme un bon vin et il doit embaumer votre bouche. C'est-à-dire un macaron sur lequel, quand vous le mangez, vous croquez la meringue. En fait, c'est-à-dire que vous ne sentez plus le saveur de la ganache à l'intérieur. Donc le bon macaron, c'est celui qui fond et la meringue et la ganache.
On pourrait passer des heures avec vous. Sylvain.
Je vais mourir, moi. Mais
non, au contraire.
On voit que le consommateur aujourd'hui, justement, attend des éléments que vous évoquez, en particulier la transparence, y compris sur les ingrédients. Vous lui dites, enfin moi, j'ai pas ça qui me vient en tête quand on me dit d'Aloyo, vous lui dites tout ce que vous êtes en train de nous dire qui correspond, je sais pas, sur l'emballage quelque part dans la communication.
On le dit parce qu'aujourd'hui, nos clients le savent, on le communique, on essaie de le transmettre en fait. La problématique, c'est comment le transmettre. Parce que vous voyez que ce sont que des couleurs pastel, vous n'avez pas des couleurs ultra flashy, fluo, bleu, jaune et autres. Dès que vous voyez ces couleurs-là, vous êtes sûr que de toute façon, il y a des arômes qui ne sont pas des arômes naturels. Quoi qu'il arrive, parce qu'on ne peut pas avoir des couleurs flashy avec des arômes naturels. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est revenu dans un monde du bien manger, que les gens veulent bien manger, les gens veulent savoir effectivement d'où viennent les produits. Et donc le citron, il va venir de Menton, tel. Vous voyez, on va chercher le produit brut, là où il est le meilleur. Nous, 100% de notre laiterie est 100% française. Vous voyez, ça c'est important. Je pense qu'il faut vraiment, on a un terrain de jeu en France sur lequel on peut avoir quasiment tous nos produits, et il faut le défendre.
Et vous arrivez à inventer 600 nouvelles recettes par an?
Ouais. Ah oui, 3 cartes par an. On a une carte un peu comme à la mode. On a la carte printemps-été, la carte automne-hiver, la carte des fêtes.
Ouais, il y a la nouvelle qui arrive d'ailleurs là.
Oui, la nouvelle qui arrive. Et alors, une nouvelle qui arrive en plus avec un élément supplémentaire, c'est qu'on travaille avec beaucoup de chefs. Et notre chef étoilé, Isabelle Arpin, qui est à Bruxelles, en fait, nous a repensé la gamme du, ce qu'on appelle takeaway, c'est-à-dire la gamme du prêt-à-emporter, justement, qui va démarrer sur notre nouvelle adresse qui va être rue Poncelet d'ici la fin octobre.
C'est d'Aloyo, 300 ans d'histoire et des recettes à découvrir. Merci d'être venu nous parler de cette
Merci
belle
Raphaël.
Maison française. Merci à Sylvain qui était notre
Merci
coach.
Beaucoup.
Elisabeth Céline, on se dit à lundi.
À lundi,
évidemment, sur Europe 1.